Nova.
Nova.
Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive.
Salut à tous, on part à la dérive avec Tikenja Fakoli.
La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, agissant directement sur le comportement affectif des individus.
Je l'ai retrouvé bien calé dans un taxi, on avait de la route à faire. Pour sa dérive, Tikenja Fakoli a traversé Paris du nord au sud en passant par Pigalle. Il a voulu revoir la mythique scène de l'Élysée-Montmartre et on s'est retrouvé sur les toits. On a repris un taxi direction Porte de Clichy pour saluer ses copains du foyer malien. Ici, le chanteur Rasta, c'est un guide, la voix des sans-voix, celui qu'on attend, qui nous donne régulièrement des nouvelles. Du nord au sud, on a quitté le foyer et les frères dans la galère pour la vie de château à la fondation Good Planet. Tikenja, c'est tout ça. Un humaniste qui monte des écoles en Afrique, un Rasta lucide au regard critique, un chanteur censuré par les dictateurs, un ivoirien apôtre de Bob Marley qui s'est donné pour mission d'incarner jusqu'au bout les valeurs du reggae.
À la dérive, avec Aurélie Sfez.
Yo !
Bob Marley, on vous appelle le roi, le prince du reggae. Et je crois que lorsqu'on s'adresse à des millions de téléspectateurs, il faut expliquer ce qu'est le reggae. Alors tout simplement, qu'est-ce que le reggae? Quelles sont les racines du reggae? D'où vient-il?
Reggae is coming from roots of a people.
On peut dire que le reggae fait partie des racines d'un peuple.
Right? So reggae is
dans la mesure où le reggae est à l'origine un patois de la Jamaïque.
Alors pour vous, Bob Marley, est-ce que le reggae est un mythe, un rythme, une religion ou tout simplement une danse?
C'est une raison de vivre. Ça peut aussi être une danse. C'est en tout cas un rythme et une religion. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Pour guérir, pour ne pas mourir.
Et bien
le reggae, c'est aussi une lutte contre la mort. Le reggae parle de la vie.
Paris 11e, j'ai rendez-vous avec Tikenja Fakoli dans un taxi. Il m'a donné rendez-vous à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Antoine et de l'avenue Ledru-Rollin.
Rouge, piéton, rue du Faubourg Saint-Antoine.
Je suis dans le taxi avec vous.
Tiken. Bonjour. On est dans le taxi là.
Ça va?
Oui, ça va, ouais.
J'ai la moumoute assortie à votre barbichette.
Barbe. Ma barbe est plus blanche, hein, je pense.
Mais les cheveux, pas trop blancs.
Dans 20 ans, tout sera tout blanc.
Tout blanc.
Ouais, je pense que je vais laisser la nature faire son travail.
Vous laissez la nature faire.
Ouais, ça c'est Rastafari.
Tiken, je vous appelle Tikenja, Tikenja Fakoli.
Comme vous voulez, Tikenja ou Tikenja Fakoli, ça me convient.
Comment on vous appelle à la maison?
Je pense qu'il y a que ma mère qui m'appelait Moussa, mon vrai nom.
Moussa Doumbia. Et Doumbia, c'est qui?
Doumbia, c'est mon nom de famille. Fakoli, c'était mon ancêtre qui a vécu, c'est mon ancêtre qui a vécu au XIIIe siècle auprès de Sundiata Keïta. C'était un grand guerrier.
Et c'est un héros, votre ancêtre, Fakoli, le guerrier?
Oui, je pense, parce que quand il a rejoint Sundiata Keïta dans la guerre de libération du peuple du Mandingue au XIIIe siècle, Sundiata Keïta s'était déjà battu 4 fois avec son adversaire. Et moi, mon ancêtre est arrivé à la veille de la 5e guerre. Et ils ont gagné la 5e guerre. Lui connaissait l'adversaire parce que l'adversaire, c'était son oncle. Son oncle voulait lui prendre sa femme. Lui, il ne voulait pas parce que lui, il avait une seule femme et son oncle en avait 99. C'est parce que cette femme, elle était très puissante. Elle avait des pouvoirs magiques.
Qu'est-ce qu'elle avait comme pouvoir magique?
Bon, il y a une histoire, hein, une histoire où il y a quelqu'un qui avait demandé à l'empereur Smangourou Kanté de faire un sacrifice de 100 plats, préparer 100 plats pour distribuer à des gens. C'était le sacrifice qu'il fallait faire, par exemple, pour gagner la guerre ou bien en tout cas pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et donc il a fait venir la femme de Fakoli, il a demandé à ce qu'elle vienne faire la cuisine dans la cour royale. Comme elle était la seule femme venue de l'extérieur, elle était critiquée par les autres. Elle n'était pas forcément belle, donc elle s'est énervée. Elle a dit, je vais montrer à ces 99 femmes que la femme, ce n'est pas seulement la beauté. C'est vrai que je ne suis pas belle, mais j'ai des choses qu'elles n'ont pas. Et donc c'est ainsi qu'elle a fait les 100 plats. Avant que chacune des femmes de Soumangourou Kanté ne finisse de
déplucher une carotte. Quoi.
Donc elle a fait ça avec des pouvoirs magiques. Et quand il a vu ça, il a dit waouh. Et Fakoly a quitté son oncle pour rejoindre l'adversaire de son oncle, pour que s'il gagne la guerre, il puisse récupérer sa femme. Et c'est ce qui s'est passé.
Comment elle s'appelait sa femme ?
Elle s'appelait Kelea Kongo.
Vous n'avez jamais fait une chanson sur Kelea Kongo ?
Non, je n'ai pas encore fait des chansons sur Kelea Kongo, mais j'ai fait une chanson sur Fakoly en train de pourchasser Soumangourou Kanté.
Nova. Qu'est-ce que ça veut dire, Fakoly ?
Chez nous, on croit aux djinns, les génies.
Les génies.
Et que Fakoly, c'est le nom de l'aigle chez les génies. Et que quand la mère de Fakoly était enceinte, elle s'est baladée un peu dans la brousse. Elle aurait rencontré un djinn, un génie, qui lui a dit, voilà, ton enfant va être quelqu'un de connu, mais il faut lui donner le nom de l'aigle chez nous. Et le nom de l'aigle chez nous, c'est Fakoly.
Voilà. Cette explication, elle vous va ?
Je pense que elle me correspond parce que Fakoly n'était ni un roi ni un empereur, mais aucun griot ne peut parler de l'histoire du peuple mandingue sans parler de Fakoly.
Je vous écoute parler, Tikenja Fakoly, et je me dis, nous en France et en Occident, de manière plus générale, on ne connaît pas l'histoire de l'Afrique, région par région, pays par pays, épopée par épopée, guerre, réconciliation, territoire, toutes ces histoires extra-occidentales.
Je pense que on a enseigné l'histoire de l'Occident au monde entier, et puis on a négligé l'histoire de certains peuples, notamment le peuple africain. Pour beaucoup de personnes en Occident, l'histoire de l'Afrique commence par l'esclavage et la colonisation. Les gens ne savent pas qu'avant l'esclavage et la colonisation, qu'il y avait toute une civilisation en place. Et qu'avant tout ça, en tout cas, on avait nos rois, on avait nos royaumes, et qu'on n'a pas réussi à maintenir notre civilisation parce qu'il y a des gens qui nous ont imposé autre chose. Et ils nous ont imposé avec quoi ? Avec des armes à feu. Quand nous, on allait en guerre, ils faisaient la guerre avec les flèches. Avec des arcs. Quand les gens sont arrivés, ils avaient des armes à feu. Et donc, ce qui a fait que les Africains ont capitulé. Yo,
fire! Depuis toujours, l'Afrique était la chasse gardée de l'Europe. Nos livres de classe nous enseignaient que c'était une source inépuisable de produits exotiques et de minerais précieux. Et tout cela nous appartenait. Les colons français, anglais, belges et portugais l'avaient conquise, découverte, exploitée. Mais après l'Asie, après les pays arabes, voilà qu'elle se réveillait à son tour. les années 60 allaient être celles de la décolonisation.
Tshombe, lui, a engagé des mercenaires venus de tous les pays, anglais, allemands, français, des spécialistes, des soldats perdus des armées européennes. Ils défendent le Katanga, efficacement, contre l'ONU, contre les opposants, contre le Congo.
Si on enseigne l'histoire réelle du peuple africain et de l'homme noir, je veux dire, les gens vont regarder autrement les Africains.
On est plus dans les histoires mm-hmm. plutôt que l'histoire.
Mm-hmm, bien sûr.
Et en même temps, on va tous se passionner pour des séries genre Game of Thrones mm-hmm. qui vont nous raconter ces mythologies avec des peuples imaginaires, des arcs, mm-hmm. des flèches, des guerriers. Alors, mm-hmm. si on l'adore dans la fiction, dans les films, pourquoi on l'adorerait pas en vrai ?
Exactement. Exactement. Mais je pense qu'il faut financer des films, il faut des séries, il faut des bons films, et même avec des acteurs noirs américains. Donc il faut que les dirigeants africains mettent de l'argent, qu'ils soutiennent nos réalisateurs pour enseigner notre histoire dans le cinéma ou à la télé. Malgré tous les efforts qui sont faits, les grands joueurs africains, les grands joueurs blacks qui sont sur le terrain, Barack Obama qui a réussi à aller à la Maison Blanche. Et donc malgré tout ça, je pense qu'il y a encore du travail à faire.
D'ailleurs, vous êtes patente dans l'album. Vous dites les Occidentaux se bougent, ils font des choses, ils innovent, ils inventent. Et vous, vous êtes oisifs, les Africains, c'est l'oisiveté.
Parce que vous savez, en Afrique, les Africains en général sont accrochés à Dieu. Quand il y a un problème, on dit oui. Dieu est grand, ou bien Dieu va gérer, ou bien Dieu va faire ça.
Donc, Inch'Allah, dans... quoi.
Inch'Allah. Et moi, j'ai envie de dire aux Africains que Dieu ne soutient que les actions. Alors, si vous restez toute la journée autour d'un thé en train de discuter, alors le problème ne va pas se régler. Donc, en Afrique aujourd'hui, on a les religieux qui ont un pouvoir incroyable. On a les pasteurs, les marabouts, les imams, bon, voilà, qui maintiennent le peuple dans un rêve bizarre. Ils se disent, bon, on va aller au paradis. Bon, c'est vrai, moi je suis musulman, j'ai envie d'aller au paradis demain. Mais je pense qu'il est possible d'avoir les deux paradis. Parce que le marabout et le pasteur, ils ont l'eau, l'électricité et les grosses bagnoles. Ils ont tout. Et donc, moi, j'ai envie de dire aux Africains que...
Qu'ils se font avoir, quand même.
Voilà, qu'ils se font avoir. Et que, surtout, si on a envie que l'Afrique avance, si on a envie que les choses changent, je ne crois pas.
Plus dans la devise « Aide-toi, le ciel t'aidera ».
C'est ça, exactement. C'est tellement énorme, cette histoire de... L'histoire de religion, c'est tellement énorme en Afrique, ça bouffe tout. Yes, I. Vous écoutez À la dérive avec Tiken Diafakoli et Aurélie Sfez sur Radio Nova. Yes, I.
Dieu nous attend, on attend Dieu. Dieu nous attend, on attend Dieu.
Moto Beka, avion créé. Anusinine balojarana moto beka kodo nyanyini anusine kuma chamana nyonkorfola kujula. Masabe kankono koni farafu wulila ale fana be wuli ne ditons pas que qui vit d'espoir meurt de faim.
Kenja, on est arrivé. On a traversé tout Paris, en fait, du 11e jusqu'au 18e. On a parlé à bâton rompu. Mm-hmm. Je ne vous ai même pas demandé où est-ce qu'on allait. Mm. Mais là, on se retrouve au pied de l'Élysée Montmartre.
L'Élysée Montmartre, oui. L'une des salles, des premières salles que j'ai faites en France, qui était réputée comme salle de reggae.
J'espère. Qui a chanté dans cette salle, à part vous, avant vous, quoi.
Je pense que tout le monde
Bob
est passé.
Marley.
Je ne pense pas que Bob est passé, mais beaucoup de Jamaïcains sont passés. Hein. Beaucoup, les Steeples, les Aswad, les Burnie Spears. Je crois que tout le monde est passé par l'Élysée Montmartre.
Ça va, monsieur ?
Très
vous
bien,
écoutez
oui.
toutes nos histoires.
Hein. Oui, 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 très intéressant. Hein.
Donc, vous connaissez Tiken Diafakoli ? Monsieur le chauffeur de taxi.
Oui, oui, quand même de réputation. Oui, oui, je suis un petit peu impressionné aussi d'avoir monsieur Tiken Diafakoli
dans le taxi. Mais
il va vous mettre des cool vibrations dans votre taxi. Vous allez passer une super après-midi. Rentrez chez vous, vous allez fumer un petit pétard. Ça va être top.
Bon, on en a un petit peu besoin à Paris, c'est très tendu, donc...
À bientôt, Paolo.
Allez, à bientôt, Paolo.
À bientôt.
Enchantée, Sophie.
Christelle, bonjour.
Aurélie.
Aurélie.
Enchantée.
Bonjour.
Et voilà, on ne se présente plus.
Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui se passe, Christelle? On est rentré par.
Alors là, on est rentré par l'entrée des artistes.
Et d'abord, merci. Dernière minute, super sympa. Vous nous ouvrez.
Pas de problème. Pas de... On va essayer de trouver un petit coin dans l'Élysée Montmartre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. On va monter au balcon, voir si ça vous convient.
Tikenja me disait dans le taxi que l'Élysée Montmartre était connue pour être une scène reggae. Bob Marley est venu ou pas sans...
Bonne question. Je ne sais pas.
Je pense que Bob Marley, il a fait un seul concert à Paris. C'était au Bourget. Et c'est d'ailleurs là qu'il s'est blessé en jouant au foot dans l'après-midi. C'est cette blessure qu'il a emportée. Les médecins avaient proposé de couper... l'endroit où il y avait la blessure, et lui il avait dit qu'un rasta ne se fait pas couper une partie de son corps. Puis le cancer est monté, et puis voilà, c'est ça qu'il a emporté, mais là, c'est à Paris qu'il s'est blessé.
Vous êtes rasta, mais vous accepteriez de vous faire soigner?
Oui, moi je vais accepter de me faire soigner. Il y a ça qui est arrivé au prophète du reggae, donc moi je ne veux pas me faire la même chose.
Est-ce que chaque concert est une prière, Tikenja?
Je dirais que chaque concert est une mission. Parce que le reggae est en mission. Oui, comment ça va, mon frère?
Ça va et toi?
Yeah, ça va bien, merci. Je visite la salle comme je dois jouer bientôt ici.
C'est pour
Radio Nova.
Oh yeah, great.
Nova.
Donc je disais que hein, chaque concert est une mission. Le reggae parle pour... La majorité des populations manipulées par les politiques. Le reggae, c'est la voix des sans-voix. Et c'est ce que le reggae a fait depuis Bob Marley, et c'est ce que nous, on continue.
Et là, on est sur le toit, et moi, je suis sans-voix.
C'est la première fois que moi, je monte ici, effectivement.
En fait, personne ne monte ici, parce que c'est un espace technique.
Génial.
Mais bon, là, pour l'occasion. Mais là, c'est rigolo d'être derrière la marquise de l'Élysée, quoi, la grisette.
La grisette?
La grisette, ouais. Qui est là depuis... 100, 150 ans peut-être, je ne peux pas dire.
Paris, c'est une belle ville. Hein. Je pense que, hein, que cette ville-là est une très belle ville.
La première fois que vous êtes venu à Paris?
Je devais avoir peut-être 25, 26. J'avoue qu'il y a quelque chose qui m'avait étonné. Pour moi, il n'y avait pas de mendiants, tout le monde était bien. Et puis quand j'arrive, on allait à la maison, arrivé au métro Couronne. J'ai vu des mendiants et ça m'avait choqué. Des blancs qui mendient, parce que pour nous, pour les Africains, même d'aujourd'hui, tous les blancs sont riches. Et c'est l'image qui était donnée sous la colonisation aussi. Et d'ailleurs, quand je suis retourné, j'ai raconté ça à tout le monde.
Et quand on monte plus haut, vers Château Rouge, vers la Goutte d'Or, là, c'est vraiment le quartier africain et asiatique mélangé.
Et ça m'avait marqué aussi. Les conditions dans lesquelles travaillent les Africains. Je me rappelle à l'époque, je me disais... Ouh là là, qu'est-ce que vous faites ici? Rentrez à la maison, vous serez mieux, hein, tu vois.
Et aujourd'hui?
Ben, ça me marque toujours. Hein. Tout le boulot très difficile, en tout cas, ce qui concerne les chantiers, etc., c'est les Africains ou les Arabes.
Et là, on regarde ces toits, ces immeubles.
Ouais.
C'est marrant d'être
Non, mais moi, c'est bien ici, le soir, avant de monter sur scène, c'est l'endroit idéal. Hein. Est-ce que depuis, une question, est-ce que depuis l'ouverture, vous avez fait combien de groupes de reggae vous avez réussi ici? Beaucoup?
Beaucoup moins qu'à l'époque où c'était vraiment une scène reggae, mais on en a quand même eu un petit paquet. On a eu Damian Marley, Julian Marley.
Les groupes de ska, je fais le lien vraiment entre le ska et le reggae.
Ah oui, le ska, c'est un peu le papa du reggae. Puis il y a le rocksteady qui est le grand-père.
Ouais.
C'est de là que le reggae vient, hein. C'était le ska, et puis l'ingénieur de son, Lee Perry, a ralenti. Il a ralenti juste la vitesse, et puis ça a donné le reggae.
Vous n'avez pas vu ce documentaire, Rude Boy, Rude Girl?
Non, pas encore.
Il raconte l'histoire du ska et des blancs, des noirs et des blancs qui se retrouvent faire la fête autour du ska, la naissance du reggae.
Rhythm,
blues, sound,
system. Jamaica, Great Britain, independence, immigration, integration.
I would deport them, they're nothing but a scourge.
Rocksteady, rude boy, reggae, skinhead, Trojan.
On descend ?
On y va.
Sur les toits de l'Elysée.
C'est la première fois, après des années. Yeah, hein ? Yeah, man.
En fait, là-bas, il y a une deuxième petite scène, là où il y a la batterie et, l'ordinateur. En face de nous, à l'opposé, quoi.
Comment on se sent à jouer devant tant de monde ? On se sent un peu le patron ?
On se sent bien de savoir que les gens sont déplacés pour nous. On se sent aimé et ça galvanise, ça donne de la force.
C'est une drogue.
Je pense. Et l'énergie qui vient du public, il est inexplicable. Il est extraordinaire. Et pas plus fort, parce que, en tout cas, pour
c'est
un
athlète. Peut-être un politique qui fait des meetings.
Un politique qui fait des meetings, quand il sent que le public qui est là est avec lui, ça lui donne du pouvoir et sa manière de réagir peut être différente.
Il peut être dangereux, ce pouvoir ?
Oui, si on n'a pas la tête sur les épaules. Quand tout le monde veut faire des photos avec vous, tout le monde veut des autographes, tout le monde va à des moments où vous pouvez vous croire surnaturel, je ne sais pas comment dire, mais voilà. Vous devez vous battre pour descendre. Moi, en tout cas, ce qui me concerne, c'est ce que je fais.
Quand vous étiez petit, là, on est là, sur les balcons. Essayez de vous réimaginer, Tiken Jaffa Coli, petit garçon. Si on vous avait dit, à l'âge de 10 ans, 11 ans, vous jouerez à Paris, dans une salle comme celle-ci, vous ferez des concerts, et il y aura plein de monde, et vous serez connu, vous ferez des disques. Vous y croyez à l'époque, quand vous êtes petit garçon ?
Pas du tout. Pas du tout, parce que...
Vous désirez, même pas ?
Non, je ne pouvais même pas imaginer. Moi, c'est à l'âge de 13 ans que j'ai commencé à composer des chansons. Et puis, dans ma tête, je voulais faire de la musique pour être connu dans mon pays.
C'était quand même ça
le
projet.
C'était ça le projet. Je veux être connu, je veux que tous les Ivoiriens me connaissent, je veux que tout... voilà. Moi, c'était ça. Je sors un album, deux albums, et le troisième album m'amène à Paris.
Troisième album, France-Afrique.
France-Afrique.
Mais c'est France-Afrique qui vous fait connaître
qui
ici.
Qui me fait connaître en France.
Ouais. C'est logique quand même.
Oui, je pense que grâce à cette chanson, beaucoup de jeunes Français ont découvert un peu cette politique obscure de la France. Et donc c'est grâce à cette chanson que les gens ont vraiment commencé à se poser des questions.
À l'époque où France-Afrique sort, c'est Chirac qui est président ?
C'est Chirac qui est président. Quand j'ai eu les victoires de la musique, c'est ce morceau que j'ai choisi de chanter. Donc Chirac a dû voir, puisque le ministre de la Culture était dans la salle.
Ayago.
Oui, Ayago. Ouais, c'était lui.
Et là, vous n'avez pas été menacé, vous n'avez pas eu de problème avec ça ?
Pas du tout. La France a prouvé que elle est un pays de liberté.
La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es.
Blague et tu es.
La politique France-Africa, c'est du blague et tu es.
Blague et tu es.
La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es.
Blague et tu es.
Ils nous vendent les armes pendant que nous nous battons, et puis nos richesses. Et c'est des êtres surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo. Enflammé l'Angola, ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es.
Blague et tu es.
La politique America-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es.
Blague et tu es.
La politique France-Africa, c'est du blague et tu es.
Blague et tu es.
La politique America-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es.
Blague et tu es.
La politique France-Africa, c'est du blague et tu es.
Blague et tu es.
La politique America.
à la dérive avec Aurélie Sfez.
Et avec Tikenja Fakoli, on a quitté l'Elysée et ses fantômes, repris un taxi, effilé au foyer des travailleurs, porte de Clichy. On a pris un chemin et jusqu'au foyer, on a croisé des hommes venus du Mali, tous fans du chanteur. Bain de foule, Tikenja prend et donne des nouvelles, il retrouve des copains. Ici, pour 2 euros, tu manges un mafé de fou. Il paraît que même la police vient passer commande. Du nord au sud, de la précarité à la richesse, on s'est téléporté à Boulogne, à la fondation Good Planet. Autre décor, un petit château nous attend et nous, on se prend pour des paons. Ici, on sauve les océans, les arbres, les animaux, on est bio, pédago, écolo. Et un jour, on nous l'a dit, le monde sera plus beau. Le deuxième lieu, vous avez choisi le foyer
à la porte de Clichy. Moi, je vais souvent là-bas pour manger. Quand j'ai envie de retrouver la sauce arachide du pays, je vais manger là-bas. D'ailleurs, les gens sont très surpris de me voir. Ok, on y va.
Salut. Derrière pour protéger les machines.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Yes, Rastafari, à très bientôt.
Au revoir les filles.
Au revoir. Bientôt peut-être.
Au revoir. Ouais.
À bientôt. Je suis de la Côte d'Ivoire, je peux prendre juste une photo?
Oui, avec plaisir.
C'est un grand de la Côte d'Ivoire. Merci. C'est parmi les meilleurs musiciens de notre pays, en tout cas.
Moi, vous êtes de la Côte d'Ivoire?
Oui, je suis de la Côte d'Ivoire.
Vous travaillez là, à la sécu?
Ah ouais, je profite un peu pour prendre une photo avec lui.
Vous allez en faire quoi du selfie, là?
Le selfie? Ah là, je vais l'envoyer à tous mes potes d'Abidjan. Je vais leur dire qu'il est là, le grand, et voilà. Au revoir.
Au revoir, merci. Tikenja, vous connaissez tout le monde? Tout le monde vous dit bonjour, hein?
Oui, j'ai beaucoup de chance, parce que beaucoup d'artistes cherchent ça. Ils n'ont pas. Et moi, j'ai ça et donc je dois me sentir chanceux. Voilà, je me sens chanceux d'avoir ça.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
monsieur. Vous allez bien?
Oui.
Donc là, on est parti.
Pour le foyer. Porte de Clichy, le foyer. C'est un immeuble, il n'y a que des Maliens qui habitent là. Des Maliens, bon, d'autres nationalités, mais la majorité, c'est des Maliens. Il doit y avoir une association qui fait à bouffer et puis les gens ils viennent acheter.
Et la musique, elle est arrivée comment chez vous? Qui faisait de la musique? Personne?
Personne ne faisait la musique chez moi. Moi, j'aimais beaucoup danser quand j'avais 11-12 ans. Puis mon père m'avait prévenu. Il m'a dit, si je ne passe pas en classe supérieure, alors je vais t'expédier dans un endroit où tu ne pourras pas danser. Voilà, et c'est ce qu'il a fait. Il m'a expédié dans son petit village sans électricité. C'est là-bas que je devais aller continuer le cycle d'école primaire.
Chez qui vous dormiez?
Ah non, j'avais mon grand-oncle qui était là. Mais malheureusement pour mon père, chaque week-end, les jeunes, malgré qu'il n'y avait pas d'électricité, ils se débrouillaient quand même pour organiser une petite soirée dansante. Donc moi, j'y allais, évidemment.
Et continuer à danser.
Et je continuais à danser. J'avais une sensation bizarre, c'est que... Au contraire, ça devait plaire à d'autres personnes, hein, parce que quand je commençais à danser, tout le monde s'arrêtait pour me regarder. Les gens venaient faire un cercle autour de moi, et ils applaudissaient, ils m'encourageaient, etc.
Vous étiez le petit danseur.
J'étais le petit danseur, mais comme je venais de la ville, j'étais à la mode. J'avais les derniers pas de danse à la mode. Tout le monde me regardait. Arrivé un moment, je ne supportais pas ça. Par contre, ce que j'avais remarqué, c'est que quand il s'agissait de reggae, alors les gens ne venaient pas autour de moi. Chacun dansait de son côté. Donc à partir de ce moment, j'ai décidé que quand je vais à une soirée, si on ne met pas de reggae, je ne danse pas. C'est comme ça que j'ai découvert le reggae, que j'ai commencé à poser des questions aux gens pour qu'ils m'expliquent les morceaux de Bob Marley et Burning Spear. Et c'est là que je découvre que le reggae, c'est une musique de combat. Et les sujets qui étaient abordés par Bob Marley, Burning Spear et Peter Tosh, ce sont des sujets qui étaient d'actualité en Afrique. Donc je me suis dit, l'Afrique a son mot à dire dans tout ça. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à composer mes premières chansons. Mais il y avait un problème, c'est que tout ce que j'écoutais comme reggae était chanté en anglais, je veux dire. Et puis Alpha Blondie qui a sorti en 82 Brigadier Sabari. Donc à partir de ce moment, je dis, mais voilà, pourquoi pas moi? Oui.
S'il avait déclenché quelque chose. Si je le fais, tu peux le faire.
Voilà. En fait, pour moi, faire du reggae dans une langue africaine, c'était pas adapté en fait.
Alors, ça sonne.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Quand j'ai vu Alpha chanter, je me suis dit, oui, ça sonne bien.
D'ailleurs, vous avez fait la reprise de Brigadier Sabari.
Oui, j'ai fait la reprise de Brigadier Sabari parce que je voulais rendre hommage à l'âge d'or du reggae. Et pour moi, ne pas mettre une chanson d'Alpha Blondy, ça allait être une injustice.
Comment vous expliquez que cette chanson, Brigadier Sabari, soit un hymne reggae aussi populaire ici? Tout le monde adore cette chanson.
Quand la musique est bonne et que les mélodies qui accompagnent sont bien, il n'y a plus de frontières. C'est-à-dire que nous, on écoutait Get Up, Stand Up de Bob Marley, on ne savait pas ce qu'il disait dans les chansons. Mais la musique était bonne, les mélodies étaient bonnes, donc voilà, ça nous faisait danser sans qu'on comprenne. La mélodie, la musique.
Elle est toujours d'actualité, Opération Coup de Poing, partout dans le monde, c'est Opération Coup de Poing.
Bien sûr, bien sûr.
C'est les violences policières.
Oui, le message du reggae est très souvent universel.
Nova.
Tu vois, Bob Marley a chanté Africa Unite, c'est encore d'actualité puisque l'Afrique n'est pas encore unie. Bob Marley a chanté Get Up, Stand Up, Stand Up for Your Right. Beaucoup de peuples aujourd'hui attendent que Dieu vienne réclamer les droits à leur place, alors que c'est eux qui doivent s'élever pour réclamer les droits.
Malheureusement.
Parce que nous, on aimerait que quand on chante quelque chose, que ce soit un peu le médicament qui soigne la chose.
Mais alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on se dit que tant que les injustices dureront, le reggae durera.
C'est ça. Le reggae ne se nourrit pas du malheur. Le reggae souhaite qu'il n'y ait plus d'injustice. Je pense que le reggae peut s'adapter, peut-être se transformera à une musique de fête, ou justement fêter cette victoire pour la justice partout dans le monde.
Le reggae a du pain sur la planche.
Oui.
Et alors, Tikenja, est-ce qu'il y a par exemple une charte du reggae? Est-ce qu'il y a comme des commandements du reggae que tous les Rastas connaissent?
C'est le peace and love, la paix et l'amour, le respect de la nature. Avant que le monde entier commence à parler du respect de la nature, les Rastas mangeaient déjà bio. Yo!
Pas de revolver, pas de violence avec les Rastas. Bien au contraire. Ils expliquent bien haut qu'ils se moquent de la politique. Une seule chose les intéresse, le retour aux sources. Ils veulent revenir en Afrique, d'où sont venus les esclaves employés jadis dans les champs de canne à sucre. Ils veulent partir en Éthiopie, plus précisément, l'Éthiopie que Marcus Garvey décrit comme la terre promise des Rastas. Autre grande règle de la doctrine Rasta, l'usage libre de la marijuana, la ganja, l'herbe de Dieu. Il faut fumer pour mieux méditer, disent-ils.
Et qui étaient les premiers Rastas?
Les prophètes.
Le tout premier Rasta, je crois que c'est un monsieur qui s'appelait Leonard Ewell, qui avait créé un village à quelques kilomètres de Kingston. Et là, tous les Rastas se sont retrouvés. Et lui, il profitait pour parler de l'Afrique aux Noirs, parce qu'ils étaient perdus, qui ont atterri là comme esclaves. Lui, il était là pour enseigner les valeurs africaines, pour parler de l'Afrique, pour dire à ces Noirs de la Jamaïque que leur racine, c'est l'Afrique, etc. Et il cultivait tous les produits vivriers, là, la tomate, en fait, tout ce qui va dans la sauce. Et donc, évidemment, comme ils fumaient de la ganja, ils en cultivaient aussi.
Manger bio, fumer de la ganja.
Ah ouais.
Tiken, ah. Vous aussi, hein, vous allez vivre très très vieux.
J'espère. On est arrivé au foyer là. Voilà.
Au revoir, Béchir.
Au revoir, René.
Donc on est porte de Clichy. Petit point géographie.
Voilà, un foyer, on est porte de Clichy.
Nord de Paris.
Nord de Paris, porte de Clichy, juste. Le foyer fait face au cimetière. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Le foyer, c'est retour. Bonjour, ça va bien ? Vous allez bien ?
Oui, merci. Ça va ? Franchement, ça fait plaisir. Merci. Vous allez bien ?
Je prends une photo avec vous.
Oui, bien sûr.
Ouais, c'est bon.
Yes, I.
Merci.
Ça va ? Vous allez bien ?
Ça va ?
Vous écoutez Radio Nova ?
Pas tout le temps, mais parfois, oui. Ouais. Parfois, ça arrive.
Bonjour, ça va bien ?
Vous allez bien ? Tranquille.
Ouais. Bonjour.
Et Camara ?
Merci. Ouais. On peut faire un peu tout.
Oui, bien sûr. Quand on est la voix des sans voix, ouais, quand on est un artiste qui fait du reggae,
c'est magnifique.
Il faut être dispo pour le peuple. C'est très important. Oui,
ça va bien.
Somoro, Maliko, Courbacité, ça va bien.
Ça va.
Un petit bonne foule là.
Un petit bonne foule. Et me voyez très souvent ici, venu manger, donc on parle de ça.
Vous arrivez, mais tout le monde vous connaît.
Ouais, c'est voilà, c'est une chance. Voilà, y a pas, il ne doit pas avoir de barrières.
J'ai dit, tu étais au Bamako, tu viens d'arriver.
Ah, moi, j'arrive de Bamako.
Ah, d'accord, ça va là-bas.
Ouais, ça va,
ça se passe, j'ai entendu, il fait trop chaud là-bas.
Il fait un peu trop chaud, donc je suis revenue à Paris. Là,
nous, on ne part pas maintenant.
Mais qui gère le foyer ?
Je pense qu'il y a un chef, ils sont très organisés, c'est une association qui gère.
Mais alors là, dans le foyer, vous dormez là ? Vous mangez là ou...
Toutes les chambres sont occupées.
Toutes les chambres sont au-dessus là.
Ouais, toutes les chambres ils sont ici. Même les gens qui habitent pas ici, ils viennent des fois fréquenter ici. C'est comme ça.
Voilà. La petite Afrique. On retrouve les frères, la famille, etc.
Et c'est un foyer masculin ou il y a aussi des femmes?
Ici, c'est que masculin, que les hommes. Ouais.
Les hommes.
À la base ici, c'est le Mali, hein. Et certaines moitiés c'est du Sénégal aussi.
D'accord.
Ouais. Ici, la majorité, ils sont venus par avion. Tout le monde, hein.
C'est tout le monde.
Tout le monde est venu pour tenter.
Un monde meilleur.
Voilà, c'est comme ça.
Pour un monde meilleur, mais qui n'est pas forcément un monde meilleur.
Toi, après avoir découvert les réalités, est-ce que si c'était à refaire, si tu savais qu'il y avait toutes ces difficultés, est-ce que tu allais venir ?
Je n'ai pas venu.
Vous regrettez d'être venu ?
Ce qui est fait. Maintenant, on est là. Je suis venu pour un autre objectif. Je suis venu pour travailler. Moi, je suis dans le nettoyage. Je nettoie le métro.
Vous nettoyez le métro ?
Bien, lui-même, ça fait longtemps. Hé, ce monsieur-là, depuis Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, lui-là, je l'ai suivi, mais il n'est pas au courant.
Qui est Tiken ?
Tikenja. Mais aujourd'hui, je le vis ici.
C'est là que ça va couper la route. Quand ça va couper le fleuve, l'eau va rentrer sur les habitants. Non, on parle des inondations à Bamako.
Ouais.
Il y a une île qui est sortie au milieu du fleuve quelque part. Et tout le monde voit, les autorités voient, les habitants voient, personne n'agit. Et cette île-là, elle va s'agrandir. Elle va couper un jour le fleuve en deux. Pendant la saison pluvieuse, l'eau va déborder. Ça va sortir de son nid et ça va faire des morts. Quand ça va faire des morts, on va dire c'est Dieu. Alors que pendant longtemps, Dieu a montré que l'île-là, ça peut couper. Il faut trouver une solution pour enlever l'île là, pour que l'eau puisse couler facilement. Donc c'est de ça qu'on parle.
Il ne faut pas attendre,
il
faut passer à l'action.
Oui, exactement, c'est ça.
Zach, vous avez été dans le clip avec Tikenja ?
Oui, ça fait un bail.
L'Africain à Paris.
L'Africain à Paris. C'était 2000.
C'était la reprise de Sting, Englishman in New York.
Merci. Et en fait, c'était moi avec mon pote Leza. Ça fait un bail, on ne se voit pas. Là, ça me fait des surprises. Et ça fait plaisir, quoi. L'Afrique, on n'avance pas, on est en retard encore.
Ah ouais.
Et là, Zach, vous êtes en train d'écouter la radio ?
Oui, RFI. C'est RFI.
La
du pote d'Afrique.
En fait, j'exprime dans le rapport.
Un peu en exil. étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Maman, je pense à toi, je t'écris. Un 3 étoiles à Cachan. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris.
Maman, je pense à toi, je t'écris. D'un 3 étoiles à Cachan. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris.
Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris.
Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Charter. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles. Un soleil au goût de ma fée.
Oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris.
Tout est parfait.
Un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris.
Tikenja, on est arrivé à Boulogne, à la fondation Good Planet, domaine de Longchamp. On est en plein milieu du bois.
Ouais, Good Planet. Bonne Planète, c'est une fondation qui se bat pour le respect de l'environnement.
Ça a l'air très très beau, hein, vu de derrière la grille.
Ouais.
On a traversé tout Paris.
Là, on est accueilli par des canards. Bonjour les canards.
C'est
les colvers. C'est
les
colvers, ouais. Ouais. Ça doit être le mâle et la femelle, je crois.
Ça, vous y connaissez en canard?
Non, j'en avais à Bamako.
Ah oui?
Dans ma ferme, à 45 km de Bamako, dans un village qui s'appelle Sibi.
Ouais,
ils sont magnifiques.
Monsieur est plus beau que madame.
Mais je pense que la dame, elle a son charme aussi. Ah. Tu vois, avec les trucs rayés comme ça, c'est très beau.
Ouais, c'est vrai.
C'est très beau.
Mais monsieur, il est quand même super chic.
Ouais, c'est chic.
Je suis en train de les poursuivre.
Ouais.
Vous êtes le gardien, monsieur? Est-ce qu'ils ont un nom, ces canards?
La femelle s'appelle Paulette et le mâle s'appelle Gédéon.
Comme le héros, c'était un livre ou un dessin animé, je sais plus.
Un livre, je crois.
Un madame. Livre,
c'est
hein,
ça.
Un petit canard jaune.
C'est ça, madame.
Merci, Steven. Au revoir, Paulette. Au revoir, Gédéon.
Au revoir, Paulette.
Eux, ils vont pas finir à la casserole, au moins,
non,
on
non,
est sûr.
Ah non, non, non. Pas ici. Pas ici. Ouais. De toute façon, en général, hein, en Europe, ici, les animaux sont assez tranquilles. Vous savez, il y a des pompiers ici pour les animaux. Il y a des lois qui les protègent. Alors que chez nous, vous savez, en Côte d'Ivoire, depuis l'indépendance, on a coupé 60% de notre forêt. Il y a des contrats avec des sociétés qui viennent couper les gros arbres qui s'en vont. Et il n'y a pas vraiment de protection de la nature. C'est dommage.
À cause de quoi, à votre avis? Pourquoi?
Je pense que le manque d'intérêt vient du manque d'information. Voilà, le fait que les gens, par exemple, ne savent pas ce que les arbres apportent. Si on expliquait aux paysans que grâce aux arbres, ils ont la pluie, je pense qu'ils allaient faire attention aux arbres. Mais on ne leur a pas expliqué ça. On dit aux paysans, c'est Dieu qui fait venir la pluie. Donc le paysan se dit, même si je coupe les arbres,
Dieu fera revenir la pluie.
La pluie et Dieu va faire pousser d'autres arbres. Les gens ont besoin de savoir les choses. Bon, tu vois, moi, je suis africain, né en Afrique, grandi en Afrique. Je sais l'importance des arbres. Tu vois, je fais attention.
Si vous étiez un animal, Tikenja, vous seriez quel animal ?
J'allais être un paon.
Un paon ?
Un paon mâle qui fait la queue comme ça. C'est tellement beau.
C'est oui. Pas très modeste.
Oui, mais
hein. Vous n'avez pas choisi le hamster, quoi.
Moi, j'aime bien. Vous m'avez demandé. Moi, je vous dis. Moi, j'aime bien le paon. Voilà.
Et alors ici, dans ce jardin, on pourrait mettre des paons, tellement c'est beau.
On pourrait mettre des paons partout.
Cette maison, c'est incroyable.
Ouais,
enfin.
Ouais. Non, c'est incroyable.
C'est dans le petit pavillon de Marie-Antoinette.
Ouais, c'est ça. C'est un petit château qui est magnifique. Un beau jardin.
Il y a un super beau jardin. Ouais. Il y a un potager. Il y a des nouvelles personnes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Jonathan.
Et en effet, pour répondre à ta question, si je peux me permettre de te tutoyer.
Mais permettez-vous.
Il y a un potager en permaculture, juste en face du château, un potager pédagogique. Et on a aussi un parc naturel, donc qui est plutôt bien fourni.
Jonathan, t'es sûr ?
Allez, suivez-moi.
Ouais.
Par là.
Okay. On rentre ?
Ouais.
On monte les marches du château. Elle date de quand, cette maison ?
Elle date du 15e siècle.
Et elle appartenait à qui ?
Il me semble qu'elle appartenait au baron Haussmann, et en tout cas elle donnait sur l'hippodrome Longchamp. Et juste, vous verrez quand vous sortirez, il y a une tour médiévale qui est un ancien pigeonnier qui abritait le premier ascenseur de France et qu'on a réhabilité à l'intérieur pour en faire une ruche géante. Alors là où Tiken voulait vous emmener, c'était la salle d'instruments de musique. Est-ce qu'on y va maintenant ? Ouais.
Monsieur.
C'est que la musique est très présente dans les films de Yann Arthus Bertrand. Alors son ami et compositeur de musique pour tous ses films, c'est Armand Amar. Et il a une collection d'instruments de musique, de 3000 instruments de musique. Il a choisi de nous en prêter 800 pour justement faire de la médiation autour des instruments de musique du monde.
Oh, c'est un musée de la musique en fait ici.
C'est fou, j'ai jamais vu des balafons comme ça.
Ouais. Ah oui, parce que celui-là, on dirait un bateau.
On dirait un bateau, ouais. Oui.
On a le droit de s'amuser, c'est l'éveil musical. Hein. On peut... On trouve quoi d'autre encore en Côte d'Ivoire ?
C'est l'instrument des chasseurs. Ils ont des orchestres, hein, les chasseurs. Ils ont des gens qui font de la musique. Et ça, c'est le ngoni. Yeah. Je l'ai vu, j'ai remarqué à travers ça. Qui est au bout. Et quand tu joues, tu sens. Dans Dieu nous entend, vous avez le Cameroun ngoni dans... We Love Africa, vous avez le Cameroun ngoni. Yeah. Et ça, ça fait penser à un instrument en Afrique, ce qu'on appelle le mbolon.
Un genre de contrebasse.
Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est le mbolon. Dans le nord de la Côte d'Ivoire et au Mali aussi.
Et en plus, ils sont beaux.
Ah, ils sont beaux, ils sont bien.
Meusdan.
Ça, c'est des trucs qui sont...
Ça, j'adore.
Ça, ça doit être attaché au pied, comme ça quand tu bouges, en dansant, tu fais le mouvement avec. Tu vois ?
Ce petit hocher, ce sont des graines de quoi ? Vous savez ça ?
Ça doit être un fruit, mais que je ne connais pas.
Ouais, c'est un fruit naturel.
Ça, c'est un fruit naturel qui pousse. D'ailleurs, quand on venait du champ à l'époque, voilà, dès qu'on voyait, parce que ça tombe de l'arbre, dès que c'est sec, et on prenait ça, on faisait de la musique en venant du champ.
Si on va là, on quitte l'Afrique pour l'Asie.
Plein d'assiettes qui doivent faire de la musique. Qui doivent...
Ça, j'adore ça. C'est des bols tibétains.
Ouais. Ouais, parce que puis quand on n'a pas d'assiette, on peut manger dedans et puis après on lave et après ça on peut l'utiliser.
On n'a pas le droit de boire la soupe dans le bol tibétain.
S'il n'y a pas d'assiette, qu'on se trouve dans un désert, on n'a pas d'assiette.
Dans un désert en Asie, qu'on n'a qu'un bol tibétain.
Et puis après la soupe, on lave et puis on fait la musique avec. C'est magnifique. Comme je ne joue pas d'instrument, je les chante tout seul. Mais t'es arrivé de perdre des morceaux comme ça. Alors que si j'avais une guitare, tout de suite, je prenais ma guitare, je joue et j'enregistre.
On a le monde entier qui résonne ici, Tiken.
Ah oui, ah oui. il y a tous les instruments presque du monde. Hein, mais...
Alors ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une très très longue corne. Ouais.
En fait, ça sert pour les bergers suisses, je crois.
Peut-être qu'ils faisaient le même son que les vaches pour les appeler. Parce que le son ressemble un peu à ça quand même.
C'est une vache qui a une petite grippe quand même.
C'est une vache qui est enrhumée. Ça, c'est un truc qui se fait avec des calebasses. Je ne me rappelle plus du nom, mais je me souviens quand j'étais gamin, quand on allait exciser les filles, au retour, c'est ça que les femmes jouaient pour les accompagner, je crois. Je me rappelle, il y a une femme qui le suivait, tout à quand il revenait.
C'est le son de l'excision.
Oui, on peut dire ça.
C'est un son violent quand même.
Oui, c'est violent. C'est violent.
Voilà, c'est fait comme...
Ça n'annonce pas une bonne nouvelle, donc non. Le son est bizarre.
Et là même, l'instrument n'a pas une forme de bonne nouvelle parce qu'il a une forme de faux un peu. On a l'impression que c'est une arme.
Ouais.
C'est pas du tout doux comme une cora ou non, comme non. Tous les instruments qu'on a vus.
Rien à voir.
Magnifique. Celui-ci, ça. Il est ultra violent. Vous étiez petit et vous voyez ces femmes arriver comme ça?
Ah oui, quand moi j'étais gamin, je pensais que c'était normal. Je pensais que l'excision, c'était dans le Coran ou dans la Bible, hein, puisque toutes nos sœurs ont été excisées. Il n'y a pas très longtemps que moi j'ai pris conscience, moi-même. Hein, lorsque j'ai vu les femmes à Bamako se mobiliser contre l'excision.
Il y a combien de temps que vous avez pris conscience?
Depuis 2005-2006. Ouais. C'est un sujet tabou. Et le fait que moi j'ai fait une chanson, c'était assez courageux quand même. Et les femmes qui sont victimes de cette pratique-là aujourd'hui, elles commencent à se plaindre. C'est important que le reggae soit à leur côté.
Que les hommes soient aussi à côté.
Que les hommes soient à leur côté. Ça, c'est mon souhait.
Elles sont venues, les femmes, avec un grand couteau. Elle a bien cru qu'elle allait y laisser sa peau. Et puis ce matin, il a fallu qu'elles entrent pour couper une fleur cachée sous son ventre. Non à l'excision, j'ai dit non à l'excision, ne les touchez plus, elles ont assez souffert.
À la dérive, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche prochain. Le nouvel album de Tikenja Fakoli s'appelle « Le monde à chaud » et il sera en concert à l'Élysée-Montmartre à Paris le 15 novembre. À la dérive, c'est Aurélie Fez au micro, Bertrand Chameton aux manettes et en podcast sur nova.fr. À dimanche prochain et d'ici là, bonne balade à tous sur Nova.
Yes, sir. Rastafari. À très bientôt.